Charles Dickens. Naissance. Mrs. Meek est heureusement accouchée d'un fils. Mon nom est Meek. On m'appelle Mr. Meek. J'ai un fils. Mon fils est celui de Mrs. Meek. Lorsque je vis l'annonce de sa naissance dans le Times, je fus tellement surpris que j'en laissai échapper le journal. Et cependant, c'était moi qui avais fait faire cette annonce, moi qui l'avais payée. Mais là, ce nom imprimé avait si bon air que j'en fus tout ému. Aussitôt que j'eus repris possession de moi-même, je montai le journal à Mrs. Meek, et m'approchant de son lit, « Maria Jane, dis-je, je fais allusion à Mrs. Meek, vous êtes désormais un personnage connu. » Plusieurs fois, et avec les sentiments de la plus vive émotion, nous lûmes l'annonce de la naissance de notre enfant. Ensuite, j'envoyai le petit garçon qui décrotte les souliers au bureau du journal, avec ordre d'en acheter 15 exemplaires. On ne lui fit aucune réduction de prix malgré la quantité. Ai-je besoin de dire que cette naissance était un événement prévu sur lequel, depuis plusieurs mois, nous fondions les plus grandes espérances? La mère de Mrs. Meek, qui habite avec nous, Mrs. Bigby, avait fait de grands préparatifs pour l'introduction de ce nouveau venu dans notre cercle. J'espère, je crois, que je suis un homme doux. J'irai même plus loin, je sais que je suis un homme doux, d'un naturel timide. Je n'élève jamais la voix. De taille, je suis petit, et je l'ai toujours été. De plus, j'ai le plus grand respect pour la mère de Maria Jane. C'est une femme très remarquable. J'estime la mère de Maria Jane. J'ai la conviction que seule, armée d'un balai, elle pourrait emporter une ville d'assaut. Je ne l'ai jamais vue céder sur quelque point que ce fût à aucun mortel. Elle est faite pour terrifier le cœur le plus résolu. Et cependant, mais je ne veux pas anticiper. Le premier indice que j'eus des préparatifs faits par la mère de Maria Jane me fut révélé une après-midi il y a quelques mois. Revenant un jour un peu plus tôt de mon bureau et voulant entrer dans la salle à manger, je sentis derrière la porte un obstacle qui l'empêchait de s'ouvrir librement. Cet obstacle était de nature molle. En y regardant de plus près, je découvris que c'était une femme. Cette femme était assise dans le coin derrière la porte. Elle buvait du sherry. D'après la bonne odeur de noisette propre à ce breuvage et qui était répandue dans la pièce, elle devait bien en être à son second ou à son troisième verre. Elle portait un immense chapeau noir qui encadrait des joues énormes. L'expression de sa physionomie était sévère et revêche. Elle s'écria en m'apercevant. « Oh, je vous en prie, monsieur, allez-vous-en. Mrs. Bigby et moi, nous n'avons pas besoin d'homme ici. » Cette femme, c'était Mrs. Prudgett. Il va de soi que je me retirai immédiatement. J'étais intérieurement blessé, mais je ne fis aucune observation. Peut-être ce sentiment d'être importun et gênant me fut-il pénible, je ne puis le nier. Je me sentais affecté, et je ne montrais pas après le dîner beaucoup d'entrain. Au moment de nous séparer, le soir, la mère de Maria Jane me dit à mi-voix, mais distinctement, et avec un regard chargé de reproches qui me réduisit immédiatement au silence, « George Meek, Mrs. Prudgett est la garde de votre femme. » Je n'en veux nullement à Mrs. Prudgett. Serait-il vraisemblable d'ailleurs que moi, qui écris ceci les larmes aux yeux, je puisse nourrir un sentiment d'animosité quelconque contre une femme si nécessaire au bien-être de Maria Jane? Non. Je suis même disposé à admettre que c'est la fatalité qu'il faut accuser, plutôt que Mrs. Prudgett. Ce qui n'en est pas moins une vérité indéniable, c'est que cette femme a apporté dans mon humble demeure la désolation et le trouble. Nous étions heureux avant sa première apparition, nous étions même quelquefois extrêmement heureux. Hélas, chaque fois que la porte du salon s'ouvrait et que l'on annonçait Mrs. Prudgett, événement très fréquent malheureusement, La paix et la joie s'enfuyaient à tire d'aile. Je ne pouvais souffrir le regard de Mrs. Prodgit. Il me disait si clairement que j'étais de trop, que je n'avais aucune raison d'être lorsqu'elle, Mrs. Prodgit, était là. Entre Mrs. Prodgit et la mère de Maria Jane, il existait comme une sorte d'entente terrible, un mystère, une conspiration. Je sentais que j'étais mis à l'index, comme si j'avais fait quelque mauvaise action. Chaque fois que Mrs. Prodgit venait après le dîner, je me retirais dans mon cabinet de toilette. La température y est terriblement basse dans mon cabinet de toilette au cœur de l'hiver. Je m'asseyais tristement, n'ayant d'autre distraction que de contempler la vapeur de mon haleine ou les rangées de mes bottes. Dieu me garde de contester l'utilité des bottes, mais je nie leur qualité récréative. Je n'essaierai pas de vous donner une idée de la longueur de ces conciliabules dont j'étais exclu. Je ferai seulement observer que Mrs. Prodgit buvait beaucoup de sherry dans ses délibérations qui finissaient toujours par impressionner Maria Jane, que je retrouvais triste et nerveuse sur le canapé. Lorsque j'étais enfin rappelé, Mrs. Bigby me recevait avec un regard désolé et triomphant tout à la fois, où je lisais clairement un reproche. « Eh bien, George Meek, semblait-elle me dire, êtes-vous satisfait? Vous êtes la ruine et la perte de mon enfant. » Je passerai rapidement sur la période de temps qui s'écoula entre cette première visite, où Mrs. Prodgit s'était si vivement prononcée contre l'intervention des hommes, et le jour à jamais mémorable où, à minuit, j'allai la chercher, et où je l'introduisis dans mon innocente demeure. Je vois encore le fiacre chargé d'une caisse gigantesque, le siège encombré d'un paquet énorme, d'un carton à chapeau, d'un panier, etc., etc. Le pauvre cocher ne savait plus où se fourrer. Je ne récrimine pas, je constate seulement que Mrs. Prodgit, aidée et soutenue par Mrs. Bigby, qui, je ne l'oublierai jamais, est la mère de Maria Jane, s'empara absolument de mon modeste chez-moi. Je me permets seulement, à part moi, cette simple réflexion, que rien n'est plus terrible que la domination féminine, et en particulier celle de Mrs. Prodgit. En ce monde, je le sais, il faut passer sur beaucoup de choses. Je crois que je le fais, je prends sur moi. Cela m'est pénible, mais enfin, j'y arrive, et je ne me plains jamais. Il se pourrait pourtant qu'exaspéré au-delà des limites de la patience humaine, je perdisse mon empire sur moi-même, mais je ferai toujours mon possible pour éviter les querelles de famille. J'étoufferai la voix de mon ressentiment, mais comment étouffer celle de la nature qui crie au nom d'Augustus George, mon enfant? C'est pour lui que je ferai entendre quelques plaintes. Ne croyez pas que je sois le moins du monde en colère, je suis calme, mais horriblement malheureux. Pourquoi donc, alors que l'on attendait l'arrivée d'Augustus George, fit-on cette grande provision d'épingles, comme si le petit nouveau venu était un criminel que l'on devait mettre à la torture, et non pas un cher petit bébé du bon Dieu? Pourquoi donc, Seigneur, ce temps pressé pour couvrir le pauvre innocent des dites épingles? Pourquoi l'emmener loin du jour et de la lumière, comme si le jour et la lumière du bon Dieu étaient du poison? Pourquoi donc l'étouffer au fond d'un berceau encombré de rideaux, de draps, de couvertures? Pourquoi l'enfouir sous le petit capuchon rose de sa sortie de bain, si bien que c'est à peine si on l'entend respirer? Pourquoi et pour qui ce formidable régiment de brosses? Mon fils est-il une noix de muscade qu'il ait besoin d'être râpé par des ruches toutes raides? Suis-je le père d'un bébé en mousseline que l'on s'apprête à gaufrer et à plisser au petit fer? Mon enfant est-il de papier ou d'étoffe pour que l'on imprime sur ses pauvres bras et ses pauvres jambes tous ses dessins dus à l'art de la blanchisseuse? L'emploi pénètre jusqu'à son cœur. Est-ce étonnant s'il crie? Augustus George est-il né pour avoir des membres ou seulement un torse? Alors pourquoi le lier et l'entraver ainsi? Y aurait-il donc quelque analogie entre Augustus George Meek et Jack Shepard? Faites-moi analyser dans n'importe quelle pharmacie de l'huile de ricin, et dites-moi si ce n'est pas en tout point pareil à ce breuvage innommé que Maria Jane se fait à la fois un devoir et un plaisir d'ingurgiter journellement à Augustus George. Oui, j'accuse Mrs. Prodgit, aidée et soutenue par Mrs. Bigby, d'avoir systématiquement administré de l'huile de ricin à mon pauvre innocent enfant dès la première heure de sa naissance. Quand ce médicament produisant de l'effet causa Augustus George des troubles intérieurs, j'accuse Mrs. Prodgit, aidée et soutenue par Mrs. Bigby, d'administrer sans discernement de l'opium pour calmer l'orage qu'elle a déchaîné. Que veut dire tout cela? Nous ne sommes plus, que je sache, à l'époque des momies égyptiennes. Alors pourquoi Mrs. Prodgit ose-t-elle réclamer pour l'usage de mon fils cet amoncellement de flanelle et de toile suffisant pour tapisser tout mon appartement? Hélas, j'ai vu l'usage qu'elle en faisait. J'ai assisté ce matin à ce spectacle épouvantable, la toilette de mon fils. J'ai vu Augustus George entre les mains de Mrs. Prodgit, sur les genoux de Mrs. Prodgit. Elle l'habillait. Un instant, il m'est apparu dans un état à peu près naturel, n'ayant pour tout vêtement qu'une petite chemise très courte surtout si on la compare à la longueur de ses vêtements ordinaires. Tombé des genoux de Mrs. Prodgit et traînant par terre, j'ai vu une longue et étroite bande qui avait certainement plusieurs mètres de long et que Mrs. Prodgit s'est mise en devoir d'enrouler fortement autour du corps du pauvre innocent. Le tournant par-ci, puis par-là, tantôt c'était l'innocente petite figure qu'on apercevait, tantôt le par-derrière de sa petite tête chauve, et toujours ainsi jusqu'à ce que cette action antinaturelle fût accomplie et la bande fixée par une épingle. C'est dans ce rôle de tonton que se passe la première partie de l'existence de mon pauvre enfant. Puis-je assister à un pareil spectacle avec un sourire et y rester indifférent? Je crains de m'être laissé entraîner à m'exprimer un peu vivement. C'est que je suis profondément remué, non pas pour moi personnellement, mais pour Augustus George. Je n'ose pas intervenir. Quelqu'un en aura-t-il le courage, un journaliste, un docteur, un parent, n'importe qui? Je ne me plains pas pour moi. Je ne me plains pas de ce que Mrs. Prodgit, aidée et soutenue par Mrs. Bigby, m'aliène l'affection de Maria Jane et élève entre nous une barrière insurmontable. Je ne me plains pas d'être compté pour rien, je ne tiens pas à jouer un rôle prépondérant. Mais Augustus George étant un produit de la nature, je ne puis m'exprimer autrement, j'ai le droit de demander qu'il soit traité d'une façon moins antinaturelle. J'oserais le dire, Mrs. Prodgit est une convention et une superstition. La faculté aurait-elle peur de Mrs. Prodgit? Pourquoi ne la prend-elle pas en main et ne la réforme-t-elle pas? Postscriptum. La mère de Maria Jane se vante de son expérience à ce sujet, ayant élevé 7 enfants en dehors de Maria Jane. Mais comment puis-je savoir si elle ne les eût pas mieux élevés autrement? Maria Jane elle-même est loin d'être forte, elle est sujette à des migraines. En dehors de cela, les statistiques nous apprennent qu'il meurt 1 enfant sur 5 pendant la première année et 1 sur 3 pendant les 5 premières. Ne semble-t-il pas qu'il y ait là bien des progrès à faire? Post-post-scriptum, Augustus George est pris de convulsions.